USS Enterprise. We boldly go where no one has been before.
Hey, avez-vous regardé ça? Vous de... OK, moi, je vais vous l'avouer. Si je ne vous l'ai pas déjà dit il y a quelques années, mais ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, mais je suis une trekker. J'ai même acheté le Beep Me Up Doc, le petit gugus, mm-hmm. à une convention de trekker ou de trekkies. Ça dépend.
Trekkies,
parce que j'étais vraiment fan de ça. Et moi, la téléportation, sérieusement, on s'en parlait avec Nelly Brière l'autre jour. Merci mm-hmm. Nelly d'être oui. là. Benoît, merci également que vous venez d'entendre. On se parlait de ça. Puis moi, je disais, parce qu'on parlait de géolocalisation, puis moi, c'est la limite de ce que j'accepte de Google, tu comprends? Mais on se disait, qu'est-ce qu'on accepterait? Puis moi, mon rêve, c'est vraiment la téléportation. Puis en ce moment, il y a plein de films de super-héros. Il y a, tu sais, la science-fiction nous habite. Il y a tellement d'exemples. Puis Nelly, t'en avais plein. Tu parlais de séries très courues en ce moment.
Il y en a plusieurs sur Netflix, là. Donc, Black Mirror, qui est assez...
qui est assez techno-effrayante.
Ouais.
Et là, on se disait, mais dans le fond, peut-être que la science-fiction qu'on regarde, puis c'est super populaire, peut-être que c'est ça qui nous attend dans l'avenir. Benoît,
mais c'est ça la fonction de la science-fiction, c'est imaginer le futur. Mm-hmm. On peut pas prévenir le futur, on sait pas ce qui va arriver, mais on peut l'imaginer. Puis parfois qu'on l'imagine, ben si on a les avancées technologiques pour le faire, ben on peut atteindre.
Mais tu sais, quand je disais téléportation, ça serait mon rêve, le beam me up doc, là tu pars, ton corps est là, puis comme dans la minute, tu es téléporté en Inde. Moi c'est quand même assez fabuleux. Je sais que c'est compliqué. Et Nelly me disait l'autre jour en blague, il faudrait pas qu'il y ait une mouche.
On se souvient
du film La Mouche. Oui. Mais, et là, quand je disais ça, Benoît, j'ai vu ton air de genre, oh, pas sûr.
Ben, c'est parce qu'il y a des questions éthiques par rapport à la téléportation. D'un, ça se fait. On a téléporté un atome sur une distance d'environ un mètre. Ça a déjà été fait.
Oui.
C'est extrêmement compliqué. Et il ne faut pas que l'installation bouge. Parce que moindrement que ça bouge, comme Nelly l'a expliqué, ben, il y a des dégradations du signal qui se fait. Donc, ce qui arrive au bout, ben, pas ce qui partait au départ. Mais l'atome qu'on a déplacé, celui au point A, il n'existe plus. Il a été recréé au point B. Donc, si toi, t'es téléporté, il y a la question, est-ce que l'original a été effacé pour être recréé au point B? Donc, peut-être que l'Isabelle...
C'est drôle, c'est exactement
B, c'est
les questions de la saison 2 de DOA qui vient d'être lancée sur Netflix.
Que je n'ai pas vu.
DOA, oui, c'est quoi cette série-là?
C'est ce que tu viens d'évoquer, c'est ça la réflexion. C'est une série de science-fiction sur Netflix dont la deuxième saison vient d'être lancée il y a quelques jours.
J'ai manqué la première, moi?
Oui.
Et c'est quoi alors? C'est qui est ensemble?
Ah mon Dieu, c'est comme complexe à expliquer comme scénario, là, disons, parce que c'est aux limites d'un conte russe, je dirais, là, dans mon interprétation, là, mais c'est vraiment un personnage qui se retrouve à pseudo essayer de voyager entre les plans, puis on est constamment en train de se demander à quel point on est dans la folie, les hallucinations ou potentielle histoire féerique et fictive. Mais des fois, ça flirte avec le conte, mais tu sais pas trop si c'est l'interprétation du personnage qui fait qu'elle romantise un peu son vécu de science-fiction ou si c'est vraiment une fiction avérée. Donc, mais c'est quand même... Il y a des codes du conte russe, là, je trouve, dans ce... justement dans cette série-là. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Mais ça, ce que tu venais d'évoquer comme concept...
Thématique geek qui revient souvent.
Oui. Ben oui, c'est ça. Puis comme j'en ai écouté un épisode hier, ça résonnait là, dans le présent.
Mais ça, c'est fascinant, cette question. Pardon, parce que, bon, dans Star Trek, ça marche, là. Mm-hmm. Donc, tu peux aller et venir dans ton corps télétransporté. Est-ce que ça marcherait vraiment? T'sais, mais tout est possible. On se disait aussi, regardez... toutes les inventions sont nées de l'imaginaire de quelqu'un qui, à un moment donné,
ça, puis les avancées scientifiques. Oui. C'est ça qui est intéressant avec la science-fiction, parce que, justement, on anticipe l'avenir, comme Benoît le disait, mais on anticipe, justement, les conséquences potentielles puis les enjeux qui sont impliqués. Parce que, ben particulièrement avec Black Mirror, où on a toujours... c'est très dystopique, là, c'est-à-dire on est dans un monde pas très joyeux, où on voit le pire qui pourrait se produire si on n'avait pas, justement, peut-être les réflexions éthiques.
Voilà.
Puis de réfléchir aux enjeux, est-ce qu'on doit réglementer, est-ce qu'on doit aller jusque-là, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Et la science-fiction a cette fonction-là, parce que moi, je donne des formations en lien juste avec des communications numériques là, qui sont devenues technologiques de facto. Et le nombre de fois où on évoque de la science-fiction autour de moi, quotidiennement, dans ma vie professionnelle, me fait me rendre compte que ça habite les gens.
Ouais.
Dès qu'ils sont en contact avec la technologie, ça a un impact sur leur façon de voir.
Il y a une télésérie qui a été mise en place il y a quelques années, c'était « How William Shatner Changed the World ». Comment William Shatner, le capitaine, le fameux capitaine Picard, a changé le monde.
Captain Kirk.
Oui, Picard était mon capitaine, mais Kirk était le premier.
Ça, c'est The New Generation.
Oui, The New Generation. On a parlé beaucoup de Star Trek à ce micro. Ça revient souvent, toi et moi.
On dirait que l'animatrice puis son invité.
Elle a un billet.
Ouais, c'est ça. Billet.
Mais moi, je vais contrebalancer parce que j'ai jamais
été très Star Wars.
Oui, je suis plus Star Wars.
Ouais.
Mais dans cette série-là, on explorait comment la télésérie Star Trek, au niveau social, au niveau technologique, a influencé des créateurs.
Ouais.
Un des fondateurs du projet Manhattan, qui ont créé finalement la première bombe atomique qui a été lancée en 1945, vient d'un type, un des fondateurs, qui a lu un livre de H.G. Wells. Ça lui a inspiré l'énergie atomique. Il est parti de là. Mm-hmm. Et ultimement, quand il est devenu un scientifique, ben, on peut faire un. Tu sais, il n'y a peut-être pas une corrélation directe, mais quand même, les idées étaient proches. Puis moi, ça me fascine. Parce qu'en ce moment, dans la science-fiction, on en parlait un peu avant l'émission, l'idée de la fusion du corps et de la technologie, on n'est pas loin pour traiter des maladies comme l'Alzheimer, la démence, mais là où la limite arrive, où l'homme, l'humain au sens large et la machine vont fusionner, ça c'est assez fascinant.
C'est ça.
Mais aussi, qu'est-ce que ça va générer comme type de société? Les grandes réflexions philosophiques, là, pour parler d'ailleurs du fameux débat entre Aldous Huxley et George Orwell, juste pour remettre les gens là, dans ce à quoi je fais référence, ben George Orwell, c'est 1984, hein, qui évoquait un monde centralisé où tout est concentré, où tout, en fait, nos plus grandes peurs deviennent nos ennemis, où est-ce que la haine devient un outil de contrôle,
mais
la peur.
Avouez, moi je l'ai racheté, puis je le fais lire à tout jeune que je connais qui l'a pas encore lu, parce que je trouve que 1984, là,
mais il a perdu.
On n'est pas loin
en
2019.
Je ne suis pas d'accord. Je trouve que un intellectuel qui a fait une recherche, je pense, dans les années 80, qui s'appelle Neil Postman, puis qui a comparé justement le débat, la posture de Orwell par rapport à celle de Aldous Huxley, qui est moins connue. Dans Le meilleur des mondes.
Le meilleur des mondes.
Le meilleur de monde, sa posture, c'est ce qui. Je veux dire, on n'aura pas besoin de brûler les livres. Les gens les liront simplement plus.
Ouais.
C'est que la vision est que notre besoin de divertissement nous anéantira. C'est la posture est beaucoup plus c'est ce qu'on aime qui va nous détruire et non pas ce qui nous fait peur. Alors c'était le combat des deux et moi quand
ce qui
je
est
regarde
très juste aussi.
Ben tout à fait quand je regarde avec les algorithmes Facebook, on est de plus en plus enfermés dans les choses qui nous confortent, qui nous font plaisir, qui nous rendent confortables, qui font que peut-être on est désinformé parce que ce que disait Aldous Huxley entre autres, c'est que les gens vont être désinformés simplement parce que ça va être noyé dans une mer de choses divertissante. Alors, les gens n'iront plus vers la vraie information. Ils vont se divertir à travers l'opinion, par exemple. Donc, moi, en tout cas, quand je regarde les deux, effectivement, peut-être que le point de vue d'Aldous Huxley gagne par rapport à celui de George Orwell. Mais évidemment, tout ça bouge. C'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de facteurs en cause. Mais ça reste que c'est des réflexions philosophiques sur la technologie qui nous entoure et l'impact que ça peut avoir sur notre rapport.
Ça fait un gros ici. Ici, tel paramètre changé, historique, social, et voici le résultat.
Exact.
Je voyais à un moment donné, il y a une étude comme quoi les sociétés qui ne sont pas capables de se projeter dans le futur sont vouées à disparaître. Donc, les sociétés où il y a le moins de science-fiction, c'est ceux qui innovent le moins. Parce qu'on n'a pas ce réflexe-là culturel d'essayer de bâtir vers l'avenir. Je dis ça de même, mais finalement, je dis rien. Mais au Québec, on ne fait pas très de science-fiction. Hein? Fait que peut-être que ça veut dire quelque chose. Mais c'est quand même assez intéressant qu'on n'est pas capable. Les nazis ont fait 1000 films durant leur gouvernance de l'Allemagne. Ils n'ont fait aucun film de science-fiction. C'est tous des films de propagande qui leur servaient à le mécanisme de propagande, mais aucun film de science-fiction. Puis on sait ce qui est arrivé à l'Allemagne nazie. Donc, c'est une réflexion quand même assez intéressante de remarquer qu'il y a un point de corrélation. Les gens qui ne sont pas capables de se projeter dans le futur, de l'imaginer, sont voués peut-être des fois à peut-être moins innover. Il y a d'autres paramètres, on s'entend. Là,
en même temps, pour ramener... C'est vrai que au Québec, on fait moins de... Mais je veux dire, on a quand même des gros laboratoires d'intelligence artificielle à Montréal.
Oui.
On est très influencés par la culture américaine aussi. Alors, je pense pas qu'on en consomme
Puis dans l'industrie du jeu vidéo,
exactement,
il y a beaucoup de cet imaginaire-là. Mais
exactement.
Est-ce qu'on pousse la technologie à essayer d'imaginer d'autres mondes?
Oui, en fait, c'est que tout ça nous influence. Moi, je regarde, par exemple, dans L'Empire et les robots, là, la fameuse maison connectée. Même si, directement, les gens qui ont inventé ces éléments-là ont peut-être pas lu le livre et directement, je vais inventer cette chose, ils ont quand même été inconsciemment affectés par cette littérature-là. Puis, il y a bien des éléments comme ça qui finissent par... influencer la création. Mais non seulement ça, moi, il y a des trucs de science-fiction qui datent parfois, puis je trouve qu'ils sont réactualisés parce que c'était des réflexions philosophiques. Par exemple, je trouve que Clockwork Orange, mm-hmm. la question ouais, posée...
Orange mécanique.
Cette, oui, Orange ouais. mécanique. La question qui était posée dans, cette, dans ce film-là se pose d'autant plus aujourd'hui parce que c'est le, la question du libre-arbitre et de là, de, à quel point voyons, c'est quoi le mot?
Libre de nos choix?
Oui, en fait, c'est à quel point on peut se faire manipuler, dans mm-hmm. le fond, dans notre façon de... Parce que le personnage
la
là-dedans
question
est très
d'Orange
violent.
Mécanique, c'est lâche la drogue aussi, là, peut-être?
Oui. Non, ben en fait, c'est pas ça, c'est que le ouais, personnage...
Soit fin que tes parents.
Non, c'est que le personnage, il est conditionné. En fait, on le conditionne.
Complètement.
Bon, c'est ouais. très violent la façon dont on le fait, mais ne l'est-on pas d'une certaine manière à travers les algorithmes?
Ouais.
Ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis pour le vote américain bombarder certaines personnes avec certains contenus ouais, pour influencer leur vote.
En Russie, là, c'est
une
drôle,
forme de ouais. conditionnement. Et non seulement ça, dans ce film-là, il y a aussi l'aspect très tribal et fermé du ouais. groupe, du personnage ouais. d'Alex, où ils ont leur langage, leur ouais. code.
Leur habillement.
Exact. Va ouais. sur 4chan puis Reddit, ce genre de communauté fermée où tu comprends rien, où tu dois avoir les codes pour comprendre ce qui se passe.
Ouais.
Il y en a beaucoup grâce à l'infrastructure de l'Internet. Donc, ouais.
J'ai moins peur de la technologie, de ce que les humains vont faire avec. Parce qu'on peut aller dans n'importe quelle direction. Tu sais, le fameux adage « si j'ai rien à me reprocher, les gens peuvent même fouiller dans mon information. » Si, comme tu dis, on est surveillé, ça va modifier de prime abord ton comportement.
Forcément.
C'est sûr que tu vas prendre des décisions qui vont être biaisées par le fait que tu es observé. Puis il y a des sociétés comme la Chine qui sont en train de prendre ce tournant-là où tu vas avoir un crédit social. Une autre idée qui vient aussi de Black Mirror. On est dans ce zeitgeist-là. Moi, c'est ce qui me fait peur. On est à quelques décisions de pouvoir tourner vers le côté dark side de la science-fiction. Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est pas la techno. La techno va aller avec l'humain.
Oui, parce que la techno au service du bien
c'est
commun, c'est
fabuleux. Il faut absolument qu'on... C'est fort intéressant. J'espère que ça intéresse les gens. Dites-moi si la science-fiction dont on parle, on a donné plein d'exemples, que ça soit des films de super-héros, des films pour les geeks, mais aussi des exemples très concrets de livres qui sont devenus des classiques. Dites-moi si vous pensez que la science-fiction d'aujourd'hui est à l'image de ce qui nous attend demain. 514-790-9850. Vous faites le 1-866-790-9850 pour nous joindre. À tout de suite. Bon, un petit peu de Star Wars là pour Madame Brière
merci,
et tous
merci.
Les fans.
C'est moins bon, je trouve.
C'est moins bon non, quand même que Star Trek. Hein, Benoît, oui, on peut le dire quand même.
Il y a plus
même.
De femmes qui prennent, qui ont du pouvoir là-dedans.
C'est un petit côté Léa, d'ailleurs.
Oui, maîtresse.
Oui, exact. Alain, bonjour. Vous êtes un fan de Stargate. Pensez-vous que c'est un peu ce qui nous attend dans l'avenir?
Ben, moi, je voudrais dire que je suis un fan de... J'ai parlé de Stargate tout à l'heure à votre chercheuse, mais je suis un fan de science-fiction totale,
ouais,
de tout.
Ouais.
Que ça soit Star Wars, Star Trek, Stargate. J'ai remarqué que dans Star Wars, Star Trek et Stargate, on pouvait avoir la téléportation.
Ouais.
Dans ces deux programmes-là, il y a la téléportation. Et oui, un jour, ça nous influence. Un jour, cette chose-là va être inventée comme votre personne qui a parlé à côté de vous tout à l'heure,
Benoît,
avec un atome, pouvait transférer un atome.
Ouais.
Il y a aussi qu'un jour, mais ça, il faut l'énergie absolument incroyable, nous allons pouvoir voyager au travers d'une porte des étoiles.
Ah, donc vous êtes un fan de Stargate pour vrai. Ouais. On a Jean-François avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour. Ben moi aussi j'aime beaucoup la science-fiction, mais en réalité, je vous appelais juste pour vous rappeler le film le Wall-E. Quand on parle d'avancement de la technologie, là, dans Wall-E, là, l'humanité, comment elle est arrangée, ils sont tous assis dans leur chaise avec leur petit écran puis leur bouffe qui sont servis par des robots. Puis honnêtement, moi, si la technologie continue d'avancer, je pense qu'on a plus de chances de s'en aller vers ça que d'autres choses.
Ouais. Merci beaucoup. Merci bien. Marc, est-ce que vous pensez que la science-fiction est un peu garante de ce qu'on va avoir demain comme technologie, qu'est-ce que vous en pensez?
Première des choses, on y est déjà, mais j'aimerais clarifier deux points.
Allez-y.
Si vous êtes une fan de Star Trek. Première des choses, au niveau de la téléportation, ça a déjà été, si vous regardez le film avec Kim Cattrall, je me rappelle pas c'était lequel des films de la série, là, mais à un moment donné, il parle du Heisenberg Compensator dans le show bien. Et ça, c'est du nom d'un scientifique qui existe maintenant, qui s'appelle le Dr. Heisenberg, qui a déjà fait le calcul, qui a déjà calculé que, pour l'instant, avec la puissance des ordinateurs qu'on a, il serait absolument impossible de faire une téléportation parce qu'on devrait calculer exactement où sont tous les atomes en mouvement sur un corps humain. Et ça, c'est impossible.
Oui, c'est sûr. Heisenberg, qu'on connaît bien, pourquoi? À cause de Breaking Bad.
Ah oui, c'est vrai.
Non, mais je veux dire, ces séries-là nous éduquent.
Nous habitent. Oui.
Tellement. Il y a la Matrice aussi. Personne n'a parlé de la Matrice encore.
Mais rejoint le concept de Wall-E.
Complètement.
À chaque fois que j'entends parler de l'idée d'une réalité virtuelle, je me demande si ce n'est pas cette réalité-là qui m'envoie des indices. Là.
Ah,
en
oui,
ce moment, est-ce que je suis dans une réalité
virtuelle? Mais il y a Ready Player One qui est, à mon avis, beaucoup plus réaliste, puis que je me dis des fois, ah, ben peut-être que Mark Zuckerberg va être un peu comme le gars qui a créé l'Oasis. Mmh. Vous n'avez pas vu ça? C'est le film, c'est un livre là, moi que j'avais lu dans les années, je pense, 90, qui a été mis en film par Steven Spielberg dernièrement.
Oui, pis, Player One, c'est le gars qui joue avec, puis qui va...
Dans la réalité. Attends,
j'ai tellement trippé là-dessus, je n'ai parlé pendant un mois.
Bon, ben moi, je pense qu'on s'en va plus vers ça que mais vers c'est déjà là. La Matrice. Ben oui, tout à fait.
Parce qu'ils ont des lunettes un peu de, ouais. comme
oui.
on, comme
ils ont
on
un costume mais... aussi pour les sensations.
Oui,
puis,
c'est ça.
Ben, justement, Facebook a investi dans...
Oui, ben exactement.
Oui, mais excusez-moi.
Ben, Facebook est en train de développer cette réalité-là. C'est pour ça que je pense que... Puis
mais moi, je pense qu'ils ont copié.
Mais moi,
ils ont copié sur la
holodeck.
Fameuse... Oui,
holodeck.
C'est le holodeck.
Merci, Isabelle.
On peut-tu me dire que c'est le holodeck?
Tout à fait.
Benoît.
Mais je pense qu'il a été influencé par Ready Player One parce que c'est un...
On peut-tu juste parler Star Trek?
Mais Mark Zuckerberg a nécessairement cette culture-là, à mon avis, parce que la plupart des geeks dans ce domaine-là ont cette littératie-là, en quelque sorte. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il a été influencé par le livre ou par le holodeck, si vous préférez? Mais je pense que tout ça a influencé la création, puis le fait qu'il investit justement en intelligence artificielle et en réalité virtuelle.
Exact.
Là. Bon, c'est pas
innocent. Non, mais ça serait-tu assez trippant?
Écoute, moi, holodeck. C'est un peu mon rêve. Là.
Ben
je,
ouais.
dire, je veux vivre assez longtemps pour voir deux choses dans ma vie, le holodeck et le voyage intersidéral. C'est ça que je veux voir.
Mais tant que ça ne devient pas comme dans Stranger Things, ça va. T'sais, la porte des étoiles, mais que finalement, ça ne va pas une place
ça
bien belle
brèche.
Fun.
Ouais,
puis que finalement, tu es en contact plus avec
des mauvais
démons
ouais.
ou des plans un
des
peu obscurs.
Ouais.
Exactement. C'est sûr que Plan B de Louis Morissette, c'est de la science-fiction quand tu y penses.
C'est une uchronie. Ouais, c'est exactement ça.
C'est un événement
qui serait pas pire.
Tu rewinds puis tu vas changer des trucs dans ton. T'sais? Mais bon, on va travailler là-dessus.
Merci
beaucoup. Merci Benoît Mercier. Je rappelle que tu réalises le podcast Les Mystérieux Étonnants. Merci beaucoup Nelly Brière, consultante en communication numérique. T'as-tu remarqué son petit ton quand même quand elle a dit holodeck?
Ouais, je l'ai senti un peu.
Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Ciao.